En 1974, mon épouse et moi, nous étions jeunes mariés et nous nous attendions à avoir bientôt un beau bébé. Le berceau était prêt. Nous avions acheté tout ce qu'il fallait pour accueillir ce beau bébé. Et le jour est arrivé, nous sommes partis à la maternité et là, un médecin a fait une erreur. Le bébé n'a vécu que 2 jours. Nous étions, vous pouvez bien imaginer, dans une grande tristesse. Nous étions jeunes. Et nous avons parlé à ce médecin, nous l'avons encouragé, il pleurait, il pensait arrêter. Et nous l'avons encouragé à continuer en lui disant « mais vous allez sauver des vies ». Et finalement, il a repris son travail. C'était un drame que nous vivions. Quelque temps plus tard, alors que je travaillais avec Bill William à Teen Challenge, quelqu'un sortit d'un bureau et me dit « Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait apporter ce trousseau de clés à Osborne ?» Je me lève, je dis « Osborne, T.L. Osborne ?»« Oui, il se trouve au 178 rue Legendre et il a besoin de ses clés. Est-ce que quelqu'un peut les porter ?» Je dis « Oui, moi, tout de suite. » Vous pensez, j'avais lu beaucoup de ses livres, j'avais écouté beaucoup de ses bandes magnétiques qui avaient été enregistrées lors de réunions qu'il avait faites un peu partout et... C'était magnifique pour moi de pouvoir le rencontrer. Donc je me précipite, j'arrive rue Legendre, je frappe à la porte, c'était une petite boutique, je frappe à la porte, j'entre et là, qu'est-ce que je vois? Je vois T.L. Osborne, à genoux par terre, pas en train de prier, mais en train de coller des photos sur des morceaux de carton afin de pouvoir les appliquer au mur. Il lève ses yeux, il me regarde et... « Bonjour frère !» me dit-il. Et j'étais très étonné. Donc, de l'entendre parler comme ça, français. Et puis, je lui ai donné ses clés. Et puis, de le voir comme ça, en vrai. Vous savez, j'étais blessé avec ce deuil. Et j'étais émotionnellement fragile. Je me suis mis à pleurer. « Excusez-moi frère !» Il me dit « Mais que se passe-t-il » Et je lui ai expliqué que... Mon épouse et moi, nous venions de perdre notre fils et que voilà, j'étais émotionnellement un peu déséquilibré et que voilà, le voyant, ça m'a fait un choc encore. Et alors il m'a pris dans ses bras, il m'a béni, il a dit frère, surtout n'arrêtez jamais de prêcher l'évangile, vous aurez des fils dans le monde entier, vous prêcherez, il y aura des gens sauvés, des gens guéris, n'arrêtez surtout pas de prêcher. Et puis là, il m'a remis des livres qu'il venait de sortir. Il y avait le « Comment naître de nouveau ». Et ça, c'était magnifique de pouvoir les recevoir de sa propre main. Je l'ai là encore. Je vois la date 31-5-77. C'est 77. Tiens. Ça doit être, c'était pas ce jour-là alors qu'il l'avait donné, c'était un autre jour. Enfin, peu importe. Voilà. Enfin, voilà. C'était une belle rencontre. Je suis rentré à la maison, j'ai dit à ma femme, chérie, c'est formidable, tu sais pas qui j'ai rencontré. Elle me dit, non, j'y raconte l'histoire. On a remercié Dieu, on a loué Dieu. C'était pour nous comme un peu si le ciel s'entrouvrait pour nous donner un encouragement. Et puis les années ont passé. Et puis voilà que, un jour, nous avons appris que, ben voilà, ça devait être là en 77, je pense. Nous avons appris que frère Osborne était à Vichy. Il devait prêcher là et... Donc, nous sommes descendus à Vichy, nous avons pris un petit hôtel, puis voilà. Et nous étions en train de prendre le petit déjeuner le matin, et tout à coup, quelqu'un dit, « Excusez-moi, est-ce que la place est libre ?» Et je lève la tête, et je dis, « Oui. » Et c'était frère Osborne qui était là, à notre table, devant notre table, demandant s'il pouvait s'asseoir en face de nous. Vous pensez, c'était extraordinaire. Donc, oui, il s'est assis et il me dit, « Oh, frère, je vous reconnais. » Et il se souvenait de cet épisode qui s'était passé là, à rue Legendre. Et il me dit, « C'est merveilleux, qu'est-ce que vous devenez ?» et tout. Alors, je lui remets, j'avais une brochure à l'époque qui s'appelait « L'Unique » qui racontait des témoignages de guérison, des témoignages de conversion. Et alors, Il me dit, mais c'est formidable. Et voilà Daisy qui le rejoint, et on fait des présentations et tout, et on prend notre petit déjeuner, on parle, il me demande ce que je fais, et je lui explique l'évangélisation, tout ça. Et tout à coup, il prend son épouse par la main et dit, chérie, je crois que c'est eux. Je crois que c'est lui. Et elle dit, oui, je crois aussi. Et avec beaucoup de sérieux, il me dit, frère, nous étions invités ici à prêcher, mais voilà, nous avons eu un deuil dans la famille. J'ai perdu mon fils. Nous avons perdu notre fils. Nous l'avons enterré la semaine passée. Vous voyez, nous pensions ne pas venir à cette convention. Et alors que nous étions en train de prier, frère Osborne me dit, alors que nous étions en train de prier à Tulsa, le Seigneur a mis sur notre cœur, allez en France, je vous donnerai un fils. Et dit, frère Genton, je crois que c'est vous que le Seigneur me donne comme fils. Nous nous sommes levés, nous avons pleuré. Il m'a dit, la première fois que nous nous sommes rencontrés, je vous ai consolé pour la perte de votre fils. Et aujourd'hui, la deuxième fois que nous nous rencontrons, c'est vous qui me consolez de la perte de mon fils. Soyez bénis. Et nous avons parlé encore, ensuite nous sommes allés à la réunion, après nous avons encore mangé ensemble, beaucoup parlé. Et il a demandé, est-ce que je peux venir chez vous? Et nous sommes rentrés jusque à la communauté qui était à l'époque au Perreux, c'était une toute petite maison. Et il est venu là avec son épouse et nous avons, ma femme avait préparé un super repas avec ma mère. C'était des filets mignons à la sauce crème avec des morilles. Je me rappelle toujours parce que c'est des soirées inoubliables. Et nous avons parlé. Et il a dit, frère Genton, pourquoi ne viendriez-vous pas aux États-Unis? Et je dis, ah oui, c'est un vieux rêve, bien sûr, ça serait magnifique. Est-ce que ça serait bien si vous pouviez venir chez nous quelque temps et nous pourrions vous instruire de choses importantes pour votre ministère? Et j'ai dit, mais ah, avec joie, frère, ça serait magnifique. Mais je ne pouvais pas sauter au plafond, on n'avait pas le premier sou pour pouvoir prendre un billet d'avion. Et c'est pas moi qui allais le lui dire, hein, donc on n'a fait aucune allusion au sujet de l'argent, rien du tout. Mais je pense qu'en voyant notre intérieur à l'époque, il a compris qu'on n'était pas des gens qui roulaient sur l'or. Le lendemain, il me téléphone et me dit, nous vous envoyons les billets d'avion, est-ce que telle et telle date vous arrange? Je dis, pas de problème. Et nous voilà partis, mon épouse et moi, là-bas aux États-Unis, pour 5 semaines. Pendant 5 semaines, le couple Osborne, en tête à tête, nous a enseigné les bases qui font ce que nous sommes devenus. Notre ministère a été bouleversé, notre vie a été bouleversée. Cet homme et cette femme de Dieu étaient des gens que Dieu a envoyés sur la terre pour quelque chose de très grand, de magnifique. Et il s'est avéré que depuis, des choses extraordinaires se sont produites dans mon ministère, des guérisons. Vous savez, quand je vais en Afrique, alors les gens savent que je suis le fils spirituel de frère Osborne, et alors très souvent, les pasteurs qui me présentent disent, voilà maintenant Michel Genton, le fils spirituel de Théol Osborne, il a son onction sur lui, attendez-vous de grandes choses. Ça me gêne beaucoup. Parce que les gens, je ne voudrais pas que les gens mettent leur foi dans le fait que j'ai l'onction de frère Osborne. J'en sais rien si j'ai l'onction de frère Osborne. Toujours est-il qu'il m'a béni, c'est vrai. Et depuis, beaucoup de choses formidables sont arrivées. Mais il y avait déjà de belles choses avant. Puisque déjà le troisième jour après m'être converti, je priais pour mon premier malade paralytique atteint de la maladie de Parkinson en plus et qui était guéri. Vous voyez donc. Mais ça a pris une ampleur depuis ce moment-là. Nous avons des réunions, mettons si nous avons 500 personnes dans une réunion, il n'est pas rare que nous avons compté jusqu'à 60 personnes guéries, pas de petits bobos, de vraiment de belles choses, de beaux miracles, de belles guérisons. Et notre frère Osborne est parti maintenant. Il est parti vers le Seigneur. La dernière fois que je l'ai vu, j'ai encore plaidé la cause du Burkina Faso, lui disant, frère, ils vous attendent, ils voudraient que vous veniez, les pasteurs sont prêts, ils vous ont écrit, je vous ai envoyé les lettres, pourquoi ne voulez-vous pas venir au Burkina Faso? Et il a dit, mais ils n'ont pas besoin de moi, ils vous ont déjà. c'est très flatteur. Mais bon, je dis, mais vous, c'est pas moi, frère. Il dit, c'est le même Jésus. Et vous voyez, c'est vrai. C'est le même Jésus. C'est le même Jésus qui vit aussi en vous et qui peut faire les mêmes choses. C'est pas par hasard que vous nous avez rencontrés sur Révélation Bible. Saisissez-vous de cet enseignement que donne frère Osborne, que je vous donne, pour pouvoir faire les choses que Jésus faisait. Oubliez les façons poussiéreuses, des façons vieillottes des églises. Faites les choses comme Jésus a dit de les faire. Frère Osborne enseigne cela tellement simplement. Vous avez sur notre site Révélation Bible tous ces enseignements sur la guérison, sur le salut. Bientôt, nous allons mettre en ligne encore le livre « Comment naître de nouveau ». Nous allons mettre ensuite certainement au sujet de l'abondance. Le frère Osborne n'était pas un de ces prédicateurs de l'abondance à tout prix pour l'argent. Si vous lisez bien son message, c'était pour l'œuvre de Dieu, et réellement c'était l'œuvre de Dieu. Est-ce que vous imaginez que la Fondation Osborne a soutenu 30 000 missionnaires nationaux dans le monde? Est-ce que vous imaginez les milliers et les milliers d'églises qui ont été créées par cette fondation? C'était... Et tous les livres. Comment pensez-vous qu'ils pouvaient donner tous ces livres? Si vous êtes venu à Paris, à la grande réunion là qui avait lieu et qui s'est terminée au château de Vincennes où il y a eu tant de miracles, vous êtes parti avec des livres cadeaux. Qui a payé? Eh bien, ce sont des gens qui sèment dans un terrain qui est bon, productif. Le terrain de la Fondation Osborne, qui est un bon terrain productif. Mais ça ne rentrait pas dans la poche de frère Osborne. Nous avons visité là-bas Tulsa, la fondation, et il m'a tout montré, il m'a même montré ses fiches de paye. C'est lui qui avait le plus petit salaire de la Fondation Osborne. J'ai vu frère Osborne quand il est venu au château ici, des habits tout simples. C'était pas un frimeur, c'était pas un frimeur, c'était un homme de Dieu. Et je suis blessé quand je lis sur des sites, entre guillemets, pardonnez-moi, chrétiens, les commentaires haineux de certains chrétiens qui disent, par exemple, un homme de 90 ans qui n'assume pas sa calvitie me paraît vraiment louche, mais en fait aussi, il défendait le prophète Branham, n'est-ce pas un signe d'une spiritualité douteuse? Des horreurs. Imaginez que Ladona, sa fille, lise ces choses-là. La souffrance déjà d'avoir perdu son papa et ensuite de voir la bêtise crasse de ces gens. Mon Dieu, ça me fait de la peine. Alors, frère Osborne, la dernière fois qu'il est venu ici, il était en Angleterre et il me téléphone, il me dit... Frère Janton, j'ai besoin de me reposer. Est-ce que vous auriez une chambre pour moi au château pour 4 ou 5 jours? J'ai dit, mais bien sûr, vous vous rendez compte. Même si on n'avait pas de chambre, on l'aurait inventé pour lui. Donc il est venu et il a dit, surtout ne dites rien aux gens, je vais être tranquille. Donc il a passé tous ces jours-là et juste avec nous et on a mangé ensemble, on parlait dans le salon et je lui ai demandé, est-ce que vous accepteriez qu'on filme nos conversations? Il a dit, frère, je n'ai plus rien à prouver, je peux tout dire maintenant. Cependant, je vous demanderai de publier ces choses si vous voulez les publier, mais seulement après ma mort. Et là, eh bien, il est mort. Et je me trouve devant ce problème. Est-ce que je publie ça? Parce que après ce que je lis là, ça me dégoûte tellement. Je suis tellement déçu par ces réactions bêtes et méchantes que je me demande si je vais mettre cela en ligne. Je prie pour que Dieu me montre quand est-ce qu'il faut que je mette ça en ligne. Je pense que je vais attendre un peu. Vous savez, depuis que la nouvelle a été annoncée que frère Osborne est décédé, il y a des milliers de personnes qui viennent sur notre site. Beaucoup, 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 beaucoup plus chaque jour. Parce qu'ils veulent voir qu'est-ce que je vais dire. Ben, je pense que je vais laisser tomber un peu cette mousse. Et comme ça, dans quelques semaines, je mettrai peut-être un petit bout de vidéo pour voir comment seront les réactions. Je prie pour ça, parce que c'est trop beau, c'est trop magnifique. Frère Osborne, je lui ai posé la question justement au sujet de frère Branham. Il m'a dit, c'était un authentique homme de Dieu, mais il a dit des choses impardonnables. Et j'ai dit, ah bon, et quoi donc? Au sujet des femmes. Et évidemment, frère Branham était un homme qui vivait à l'époque où le féminisme faisait des ravages, si j'ose dire. C'est-à-dire que pour un pauvre petit fils de paysan comme Branham, qui était à peine allé à l'école, voir tout d'un coup ces femmes sortir en short, fumer dans la rue, s'asseoir au bar et boire leur bibine comme les hommes, ça, c'était choquant. Imaginez un peu à l'époque. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer, c'était choquant. Et évidemment, il en a parlé, il a dit des choses qui sont, c'est vrai, énormes au sujet des femmes. Mais qui n'a pas dit des choses énormes à un moment ou à un autre dans sa vie? Il m'a parlé au sujet de toutes sortes de points de doctrine et tout ça. Et tout ça, c'est sur les bandes, c'est sur cette vidéo. Je lisais aussi dans un de ses commentaires haineux sur un site chrétien que je nommerai pas, de toute façon vous devez bien vous douter, ça commence par T, c'est facile, hein. Ce frère Branham que Osborne aimait tant a quand même prophétisé la fin du monde pour 77, c'est un faux prophète, puisque ça n'est pas arrivé. Eh bien, moi j'ai toutes les bandes de frère Branham ici, j'ai tous les livres, et il n'a jamais dit ça. Il a dit que à cette époque-là, il dit, je prévois d'après les choses comme elles vont, il dit, je ne prophétise pas, mais je prévois que à cette époque-là, vers 77, ce sera certainement le commencement de la fin du temps des nations. Bah, mes pauvres enfants, c'est exactement ce qui est arrivé. Les vieux comme moi se souviennent comment c'était avant, ne serait-ce que dans les églises ou dans la douceur de vivre qu'il y avait en France. C'est à peu près à cette époque-là que les miracles ont commencé à cesser en France. En France, pas dans le monde, hein, en France. Et puis après, ça s'est étendu un peu partout, à gauche, à droite, toutes sortes d'hérésies, de trucs bizarres, de machin, qui font que l'Église est devenue la risée de ce monde. Et puis nous voyons bien que c'est la fin des nations, c'est la mondialisation. Quand Branham vivait, personne n'aurait pu dire mondialisation. Si on avait dit il y aura bientôt une mondialisation, on nous aurait ri au nez. Hein? Voilà. Eh bien voilà. Non, frère Branham n'a jamais dit que ce serait la fin du monde en 77. Et frère Osborne n'était pas un branhamiste. Il m'a dit, quand j'ai vu le fanatisme autour de cet homme juste après son décès, il m'a dit, je me suis retiré afin que mon ministère ne soit pas abîmé par cela. Tout ça, c'est dans les vidéos que je mettrai bientôt en ligne. C'était un homme sage qui s'attachait à ce qu'il avait reçu. Et ce qu'il avait reçu de Dieu, c'était d'aller prêcher l'évangile à ceux qui n'avaient jamais été atteints par l'évangile. Pourquoi ils n'étaient pas atteints? Parce que les chrétiens, surtout en France, aiment prier pour savoir quelle est la volonté de Dieu. Ils passent des heures, des années à prier plutôt que de faire la volonté de Dieu, qui est aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Mais non, ils prient pour savoir quelle est la volonté de Dieu. Voilà, ben, c'est un signe de folie, les vierges folles. Nous sommes cernés par les vierges folles. Hein. Il faut pas, c'est pas les catholiques, les vierges folles. Hein. Ce sont les gens nés de nouveau qui sont un peu zinzin. Il y en a beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup. Allez, Jésus est gentil, il dit 5 sur 10. Moi, je pencherais plus pour 8 sur 10. Mais enfin, bon, Jésus est très poli. Moi, je suis un peu plus cinglant, disons. Vous voyez, notre frère Osborne a ouvert des portes partout. Il est allé dans le monde là où les gens ne... Les évangélistes en général n'allaient pas à cette époque. Maintenant, beaucoup y vont. Je suis allé par exemple à Abidjan et frère Osborne venait de passer 2 mois avant moi. Et j'ai vu des vieux chrétiens là-bas, des vieux pasteurs. Et ils m'ont dit, frère, nous avons vu frère Osborne. Quand nous avons entendu sa petite voix, parce qu'il était déjà vieux, nous avons dit, oh, il a perdu quelque chose de puissant. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais quand il s'est mis à prier pour les malades, et quand nous avons vu les dizaines et les dizaines de malades qui étaient guéris, des aveugles, des paralytiques, des appareils orthopédiques qui étaient jetés, on a dit, non, il parle peut-être plus doucement qu'avant, mais la puissance de Dieu est toujours là avec lui. Frères et sœurs, notre frère est décédé dans sa 90e année. L'année passée, il était encore en Inde, en train de prêcher là-bas. Vous imaginez pas, vous qui n'êtes jamais allé en Inde, ce que c'est que de vivre dans ces pays chauds à cet âge-là. Non, il aurait très bien pu rester tranquille dans sa maison de Tulsa que j'ai visitée, qui était magnifique. Vous avez quelques photos sur Révélation Bible de cette maison. Eh bien, non, il continuait jusqu'au bout à prêcher l'Évangile. Il continuait à écrire des livres. Il continuait à enregistrer des prédications sur vidéo. Il continuait toujours. Mon Dieu, quel homme de Dieu. Quel homme de Dieu magnifique. Il m'inspire. Et je vais garder cette idée qu'il m'a donnée, cette vision qu'il m'a donnée. Je la garderai jusqu'au bout. Alors, je me fais une petite idée de ce qui sera raconté à mon sujet quand je vais quitter ce monde. Mais bof, 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 bof. Vous savez, Dieu commence à avoir des hauts le cœur. Et bientôt, il va vomir. C'est écrit dans Apocalypse 3, et vous chercherez. Il va vomir ses tiédasses. Alors, comment voulez-vous que quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit n'ait pas des hauts le cœur aussi devant tant de bêtises et de méchanceté à l'égard de son serviteur T.L. Osborne? Quel homme de Dieu magnifique! Quelle patience, quelle gentillesse! Pensez-y, il aimait tellement la France et les pays francophones qu'à l'âge de 52 ans, avec son épouse, il a appris le français. Quelle récompense a-t-il eu? À Vincennes, j'ai vu, c'était presque que des églises d'Africains qui étaient là, qui l'ont invité. Voilà, le résultat. C'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez? Alors, vous allez dire, mais Michel, tu es décourageant aujourd'hui, tu es décourageant. Non, je ne suis pas décourageant, je suis en deuil en ce moment. Je suis en deuil, j'ai perdu mon papa spirituel, ça me fait mal. Je suis attristé en plus de voir la méchanceté et la bêtise de certains chrétiens français. Ça me blesse. En plus, je pense à la blessure que doivent ressentir la famille Osborne en lisant ces choses. Je prie qu'ils n'aillent pas lire ça. Je prie qu'ils n'aillent pas lire ça. Mais je voudrais vous laisser une bonne nouvelle. Je suis sûr que frère Osborne ne serait pas content si je n'étais que négatif. Je vais vous laisser une bonne nouvelle. C'est que les choses que notre frère Osborne a faites, vous pouvez les faire la même chose. Il suffit simplement que vous vous leviez et que vous disiez maintenant, ça suffit. Je ne suis pas l'esclave d'une religion, ça suffit. Je sors de ça et je fais la volonté numéro 1 de Jésus, qui est d'aller prêcher la bonne nouvelle. Vous allez dire, mais comment ? Peu importe comment, où, peu importe où, mais faites-le. Faites-le. Ce monde est en train de se perdre. Ce monde, et particulièrement cette pauvre France, est en train de se perdre. Eh bien, mes frères et sœurs, vous qui avez aimé frère Osborne, faites ce que frère Osborne vous dit. Ce que frère Osborne vous dit, c'est ce que Jésus a dit il y a 2000 ans. C'est ce que Paul a dit. Et n'attendez pas d'avoir une carte de pasteur ou d'évangéliste. N'attendez pas d'être reconnu par les pontifs des églises autoproclamées. N'attendez pas ça pour aller et faire la volonté de Dieu. C'est tous ceux qui croient qui peuvent faire la volonté de Dieu. Faites-la. N'attendez pas d'aller à l'école biblique pour vous faire bourrer le crâne avec de la théologie. Qui mène où? Qui mène où, je vous le demande? J'ai vu là dernièrement, il n'y a pas longtemps, un de mes amis qui était un évangéliste et qui est devenu un théologien. Ben, ah ouais, il ne croit même plus au retour de Jésus. Il ne croit même plus au retour de Jésus. Il croit que Jésus s'est marié. Non, mais c'est quoi ce cirque? Bon, je ne dis pas que tous les gens qui vont à l'école biblique se mettent à croire des imbécilités, mais dis donc, tous ceux qui étaient avec moi à l'école biblique, ils sont où? Partons. N'attendez pas d'avoir fait des études. Allez, ce que vous savez est suffisant. Qu'est-ce que vous savez? Comment Jésus vous a sauvé? Eh bien, allez dire ça aux autres de la même manière que vous l'avez entendu dire, que Jésus vous a sauvé, que Jésus est le sauveur du monde. Écoutez un petit exemple. Là, ça m'a encore choqué. Madame Dupont a trouvé une bonne lessive. Qu'est-ce qu'elle fait, Madame Dupont? Elle est toute contente, elle va en parler à Madame Durand. Non? Ben oui. Est-ce que Madame Dupont connaît toute la technique et toute la science au sujet de la fabrication de la lessive? Non. Mais elle est quand même capable de dire à sa copine Madame Durand, « Ah, oh, cette lessive, elle est géniale. Il y a une grosse tache. Et avec ma lessive, il n'y a plus de la grosse tache. » Et tu vois, c'est formidable, le linge est formidable. N'importe qui peut faire ça. Eh bien, excusez-moi. Quand on a vraiment expérimenté l'amour de Jésus-Christ, quand on est né de nouveau par la puissance du Saint-Esprit, on est capable d'aller le dire à n'importe qui. Vous pouvez le faire, vous devez le faire, vous allez commencer à le faire, vous devez le faire. Si vous ne le faites pas, vous êtes dans la catégorie des tièdes que Dieu vomira. Vous devez le faire. Frère Osborne, un soir, là au château, il était assis dans le salon, plusieurs frères et sœurs étaient là et je posais des questions, d'autres posaient des questions. Et puis, à un moment donné, je me suis demandé si ça serait possible, peut-être, qu'il nous explique quelle est sa position au sujet des prophéties. Excusez-moi, c'est le téléphone qui a sonné. Au sujet des prophéties. Et frère Osborne a sorti de sa poche de veste un bout de papier qui était enroulé. Et il l'a déroulé. On aurait dit, vous savez, un de ces papiers... quand on va faire des courses dans un magasin et puis il y a toute une liste, mais il était très long, il faisait bien 50 cm de long et il me l'a tendu, il me dit lisez ça. Alors je prends et je commence à lire et c'était des noms, c'était Kufruska, Drobovsky, Blavuska, Jojovskov, enfin bon, des noms visiblement avec il y avait des, c'était russe quoi. Alors, je dis, mais je comprends rien, il dit, lisez. Alors, j'ai lu, patiemment, jusqu'au bout, et quand j'ai eu fini, il a tendu sa main, il a repris le petit bout de papier, et il l'a enroulé très lentement, très tranquillement, il l'a remis dans sa poche. Il m'a regardé, et il m'a dit, frère Jonton, tous ces noms que vous venez de lire sont les noms de villes de moins de 100 000 habitants. Dans les pays de l'Est où il n'y a aucun témoignage de Jésus-Christ, aucune église, aucun évangéliste, rien. Alors vous voulez que je vous parle au sujet des prophéties? Excusez-moi frère, mais les prophéties, c'est bon pour les discussions de salon, ça n'est pas mon truc. Moi, je suis mandaté pour aller prêcher là où les autres ne vont pas. Qu'allez-vous faire? Vous savez, si j'aurais été un gamin nouveau converti qui m'aurait fait ce coup-là, j'aurais été vexé, hein, parce que c'est terrible un truc pareil. Venant d'Osborne. Ouh! J'ai dit, il a raison. Il a raison. C'est ça le numéro un, le travail numéro un de Dieu. C'est l'évangélisation. C'est l'évangélisation. Alors, perruque, pas perruque, qu'est-ce que ça peut faire? Mais qu'est-ce que ça peut faire? Vous savez, on m'a dit chez les gitans, frère Osborne n'est pas exaucé par Dieu parce qu'il prie la tête voilée, puisqu'il a une perruque, il a la tête voilée. Mais où va se nicher la bêtise? Là où elle trouve de la place. On m'a dit, frère Michel, mais vous avez prié pour un paralytique avec la maladie de Parkinson 3 jours après votre conversion. Étiez-vous baptisé d'eau? Non. Étiez-vous baptisé du Saint-Esprit? Non. Alors cette guérison ne pouvait pas venir de Dieu, elle venait du diable. Mais où va se nicher la bêtise? Ben là, où elle trouve de la place. Ne laissez pas de la place à la bêtise dans votre cœur et dans votre cerveau. Maintenant, il y a aussi une petite histoire qui se raconte sur Frère Osborne, c'est l'histoire de l'estrade qu'il a vendue. Alors là, laissez-moi vous la raconter, parce qu'elle est excellente. C'était en Afrique, le frère et la sœur Osborne venaient de terminer une mission avec des guérisons extraordinaires, et il y avait même eu une résurrection qui s'était produite sur l'estrade. C'est-à-dire que quelqu'un est mort dans la foule, vous savez, quand vous avez une foule de 300 000 personnes, ben, ça peut arriver que quelqu'un meure subitement dans cette foule. Hein, c'est pas parce que c'était au frère Osborne qui prêchait que cet homme est mort, c'est parce que voilà, c'était son heure, puis il est mort là, puis voilà. Bon, et puis les gens commencent à crier, ah, il y a un mort, et tout le monde, vous savez, en Afrique, les gens sont très chauds, et les gens ont eu peur, est-ce que c'est quelqu'un que je connais, est-ce que c'est mon fils, est-ce que c'est mon père, est-ce que c'est ma mère, qui est-ce? Et ça faisait des mouvements de foule, et frère Osborne m'a dit, je sentais l'estrade qui bougeait, alors j'ai appelé avec autorité, j'ai dit, qu'on apporte le corps afin qu'on puisse l'identifier, afin que vous soyez calmés. Et alors les gens ont porté le mort comme ça, il a passé par-dessus la foule et ils l'ont posé sur l'estrade et il est ressuscité là. Cet homme, sur l'estrade, son corps a sursauté et s'est relevé. Et frère Osborne ne faisait pas tomber les gens, mais il les faisait relever lui. Ressuscité. Ça a été extraordinaire. Et voilà que frère et sœur Osborne étaient à l'hôtel, et depuis l'hôtel, ils voyaient les ouvriers qui étaient, la mission était finie, les ouvriers étaient en train de détruire l'estrade, et Daisy, qui est une femme pragmatique, dit, Théel, elle appelait toujours son mari Théel, Théel, je pense, j'ai une idée là, si on faisait découper quelques planches de cette estrade en petits morceaux, et qu'on les envoie, ces petits morceaux, à nos partenaires qui nous ont soutenus financièrement, pour que nous puissions faire cette mission, si on leur envoyait ça en souvenir, en leur racontant ce témoignage extraordinaire. Ils pourraient prendre ce petit bout de bois, le poser sur leur cheminée ou sur un meuble, et quand ils ont des visites, les gens diraient « Mais c'est quoi ce petit bout de bois vilain que vous avez là ?» Et ça serait pour eux une occasion de rendre témoignage de ce qui s'est passé là, dans cette ville, avec ces milliers de conversions, ces dizaines et ces centaines de miracles, et cette résurrection. Et Osborne a ri, il a dit, oui, c'est une très bonne idée. Donc, ils ont fait découper un morceau de l'estrade, des petits bouts de bois, et ils ont envoyé ça, j'en ai reçu un morceau de l'estrade, là où il s'était passé tant de merveilles, et puis, il y avait une lettre qui disait, continuez à prier pour notre ministère, et voilà, et à nous soutenir financièrement, voilà. Et certains pasteurs ont dit que frère Osborne vendait des bouts de bois d'une estrade comme porte-bonheur. Ils l'ont fait aussi avec moi, les mêmes, je ne vais pas vous donner des noms, hein. Il y a un JCG par exemple, qui a travaillé au thé, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est mort maintenant. Ben, lui, il a été raconté, parce que alors on avait fait dans notre chapelle qu'on avait rue Legendre, on avait mis un beau papier peint et nous en restait un peu. Alors j'ai découpé ces bouts de papier peint, je les ai envoyés aux gens leur disant mettez ce bout de papier peint dans votre Bible et chaque fois que vous ouvrirez votre Bible, vous penserez à notre nouveau ministère dans cette salle, 178 rue Legendre, et je vous demande de prier chaque fois que vous voyez ce bout de papier peint, priez pour nous. Voilà. Eh bien, des pasteurs, et celui-là en particulier, a été raconté que j'envoyais des bouts de papier magique qu'il fallait mettre sous les oreillers afin d'avoir des songes. Et que c'était diabolique, et là, 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 et là, là, là. Voilà où va se nicher la méchanceté et la bêtise de ces faux pasteurs qui troublent l'eau où vont boire les brebis. Et ces gens-là seront sévèrement punis pour avoir agi de cette manière-là. Frères et sœurs, je suis dans le deuil, mais en même temps, je suis dans une sainte colère. Pas dans une colère charnelle, mais dans une sainte colère. Parce qu'ils touchent là à une perle précieuse en touchant frère Osborne de cette manière. Ils salissent quelqu'un que Dieu a envoyé pour notre temps. Alors que cet homme est décédé maintenant, ils salissent sa mémoire, ils blessent encore leur famille. Non, je ne prie pas que Dieu les bénisse, je prie que Dieu les châtie, afin qu'ils apprennent un peu à vivre correctement comme des chrétiens. Je suis fatigué, mais je garde dans mon cœur le souvenir de mon frère Osborne, de ma sœur Osborne, et dès demain, je me remettrai au travail, oubliant toute cette mélasse gluante de religion destructrice, pour me remettre au travail pour l'œuvre de Dieu. Priez pour moi, priez pour mon épouse, priez pour notre communauté, priez pour notre sœur Ladona, ses enfants, son mari, pour tous les frères et sœurs de la fondation là-bas, pour Pat Lauverne, qui était sa secrétaire dévouée depuis des dizaines et des dizaines d'années, qui est une femme de Dieu extraordinaire, merveilleuse. Priez pour Pat Lauverne aussi. Soyez gentils, soyez gentils. Sortez du milieu d'elle, de cette église bête et méchante. Sortez de cette... afin de ne pas participer à ces mauvaises œuvres, et faites l'œuvre de Dieu, qui est d'annoncer Jésus-Christ, le Tout-Puissant Jésus-Christ, Sauveur, Guérisseur, Protecteur, qui nous dirige, qui nous protège. Amen.